9h24, on va prendre les prochaines minutes pour faire le point sur le coronavirus. Je dirais, compte tenu de l'évolution, et prendre le temps de le faire sur le plan médical et sur le plan de la science. Pourquoi? Parce que il y a tellement de fausses informations qui circulent. Il y a, je sais, pour beaucoup de gens, un certain niveau d'anxiété. On regardait les chiffres ce matin, par exemple, l'augmentation de cas en Iran, en Italie. Alors, pour en parler avec nous, le docteur Paul Le Guerrier, qui est médecin, donc, et qui est à la direction de la santé publique pour tout ce qui concerne prévention et contrôle des maladies infectieuses. Docteur Le Guerrier, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Première question, on va mettre la table tout de suite, là. La différence entre le coronavirus et le virus de la grippe, ça serait quoi?
Bien, on peut facilement comprendre qu'il y a une grande ressemblance entre les deux virus. Okay. Là, c'est des virus qui se transmettent par des sécrétions, par la toux, par les éternuements. C'est des virus qui touchent principalement les personnes âgées, les gens qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, puis des gens qui ont des maladies autres, comme l'hypertension, le diabète. Donc, c'est des maladies qui se ressemblent de ce point de vue-là. On ne connaît pas encore tout sur ce virus-là, mais pour l'instant, il y a peut-être un peu plus de gens qui en meurent, surtout, comme j'ai dit tantôt, les personnes âgées. Mais c'est des virus qui se transmettent un peu de la même façon.
Donc, il y aurait un taux de mortalité un peu plus élevé à date de ce qu'on voit là, par rapport à la grippe annuelle.
Pour l'instant, c'est ce qu'on pense, mais ça se peut que le nombre de personnes qui en meurent diminue avec le temps parce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont peu symptomatiques, qui ont peu de symptômes, puis que présentement, ne sont pas détectées, ce qui ferait que le nombre de personnes qui en meurent de cette maladie-là diminuerait, puis ça pourrait ressembler à une grosse, grosse grippe.
Bon, là, on a vu, évidemment, l'épicentre en Chine, l'Asie qui a été touchée, et on voit maintenant tous les continents, je pense qu'il n'y a que l'Antarctique où on n'a pas de cas, là. Mais ça veut dire qu'en Europe, il y en a beaucoup, en Italie, en France, en Iran. Le fait que... Est-ce qu'on peut d'abord parler d'une pandémie quand on fait une liste comme ça de pays?
Bien, l'OMS ne parle pas vraiment de pandémie, mais de régions de plus en plus touchées. Je crois que moi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains centres là où il y a de la transmission communautaire, c'est-à-dire qu'il y a de la transmission de personne à personne à l'intérieur du pays. C'est plus simplement des voyageurs qui reviennent de régions touchées. Donc, de cette façon-là, oui, il y a plusieurs régions comme l'Italie, l'Iran qui sont touchées, mais on ne peut pas parler de pandémie ici au Québec, à Montréal. On n'est pas rendu là. On a eu un seul cas à Montréal.
J'imagine que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on se dit ben c'est une question de temps avant qu'on en trouve un deuxième, un troisième, un quatrième cas au Québec, non?
Ah, c'est certainement possible. On a vu que c'est le cas à Toronto puis à Vancouver. Mais nous, à Montréal, au Québec, ce qu'on a mis en place, c'est des mesures pour justement dépister ces gens-là quand ils reviennent de voyage ou qui ont des symptômes typiques de la maladie et qui reviennent de voyage. On a identifié les pays, donc on fait une surveillance. On a demandé aux hôpitaux de faire un dépistage. Et par la suite, si jamais on découvre un cas, on a un bon test qui est fait au Laboratoire de santé publique du Québec. Puis dès qu'on découvre un cas, bien nous, ce qu'on fait en santé publique, c'est qu'on identifie ce cas-là, on lui pose des questions, on essaie d'identifier tous ses contacts étroits, on identifie qui était à bord de l'avion qui a pris pour revenir au Québec. Et on rejoint ces gens-là, on les surveille, ils sont placés à domicile et on les suit jusqu'à temps qu'ils n'ont plus de symptômes. Est-ce que dans les jours à venir...
Juste une question, quand vous dites qu'ils sont à domicile,
oui.
Là, on se dit, mais s'ils ont développé les symptômes, pourquoi ils sont à domicile? Pourquoi ils ne sont pas à l'hôpital, isolés? Ils ne risquent pas de sortir, contaminer d'autres personnes?
Bien, vous avez raison de dire que la plupart des gens qu'on a vus jusqu'à date, plusieurs des gens qu'on a vus jusqu'à date qui ont été détectés au Canada sont placés en isolement à domicile, c'est un isolement volontaire, mais il y a des gens qui pourraient être à l'hôpital aussi. Ce qu'on voit dans les statistiques, c'est qu'à peu près 82 % des gens sont assez bien qui pourraient retourner à la maison. Puis il y a seulement un 15-18 % des gens qui nécessitent des soins hospitaliers. Donc, c'est pour ça que, par exemple, notre cas à Montréal, elle était suffisamment en bonne santé. Elle avait une toux, elle avait peut-être une petite fièvre, mais elle était suffisamment assez bien pour pouvoir retourner à domicile.
OK. Beaucoup de gens qui ont voyagé dans les dernières semaines nous disent qu'ils ont l'impression que Montréal pose moins de questions, qu'il y a moins de monitoring, là, de passagers qui reviennent, que dans d'autres pays où là, plus systématiquement, on va interpeller les gens. Ils ont l'impression que, alors qu'ils sont rentrés, par exemple, je donne des cas des gens qui étaient en Asie, qui ont transité vers l'Europe, qui finalement sont revenus à Montréal. Mais pourquoi on ne nous prend pas la température, par exemple? Pourquoi est-ce que on nous pose pas plus de questions lorsqu'on revient ici?
Ben, on a gagné un peu d'expérience avec ce qui s'est passé en 2003 puis en 2009 avec la pandémie. On sait que prendre la température à l'aéroport, ça fonctionne pas bien. Il y a des études récentes qui ont démontré que c'est pas tellement efficace. On en manque des gens. Des gens peuvent être très peu symptomatiques, peu de symptômes, puis quelques jours plus tard développent des symptômes. L'approche que nous, on a développée au Canada, c'est plus d'informer les voyageurs. Les voyageurs qui reviennent de pays à risque sont informés de s'auto-surveiller. S'ils développent des symptômes, d'appeler le 811. Et là, le 811 va téléphoner à la direction de santé publique et nous, on va faire un suivi avec ces voyageurs-là. C'est ce qu'on recommande, par exemple, pour les voyageurs qui reviennent de la province de Hubei, de la Chine, de s'auto-isoler et de d'autres régions. C'est ce qu'on recommande aussi, les gens, de surveiller leurs symptômes. Puis, donc, nous, on va être capable d'identifier ces cas-là puis de faire un suivi avec eux. Alors, donc, il y a un suivi. Les médecins savent qu'ils doivent faire un dépistage quand il y a quelqu'un qui se présente à l'urgence et qui revient d'un voyage et qu'il y a des symptômes qui correspondent à la maladie. Et par la suite, bien, la santé publique, si jamais le cas est confirmé, la santé publique va faire un suivi avec ces cas-là. Il faut se souvenir que la maladie se transmet par gouttelette. Alors donc, ça ne court pas les rues. Il n'y a pas de transmission locale au Québec. Pour l'instant, on a un seul cas. Et puis, nous, on continue notre travail de vouloir contenir cette maladie, c'est-à-dire de détecter tous les cas et puis de s'assurer que on suit les contacts étroits de ce cas-là. Alors, c'est la situation qu'on fait présentement.
Notre invité ce matin est le Dr Paul Leguerrier, donc de la Santé publique de Montréal. L'autre question qui revient tout le temps du côté des auditeurs, est-ce qu'on a trouvé un vaccin? Est-ce qu'on travaille sur des hypothèses? Si oui, ça prend combien de temps? Puis là, je pense, vous me corrigerez, qu'on est à l'étape, dans certains cas, de faire des tests cliniques.
Oui, ben, c'est-à-dire que je sais qu'il y avait commencé à travailler sur un vaccin contre le premier SRAS qui est arrivé en 2003. Et je crois qu'il y a des chercheurs qui sont en train de développer un autre vaccin, mais on n'aura pas de vaccin pour plusieurs mois encore. Donc, il ne faut pas vraiment se fier sur l'arrivée d'un nouveau vaccin pour nous aider. Non, c'est vraiment de l'épidémiologie de base, c'est-à-dire faire un bon dépistage à l'entrée chez les voyageurs, identifier les cas, rechercher les contacts étroits. Et c'est surtout comme ça.
Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Puis là, je comprends qu'il y a plus de cas, évidemment, l'exemple de la France et de l'Italie. Bon, les employés du Louvre qui disent « on ne veut pas travailler, c'est un endroit qui attire les touristes », donc on ferme. Le Salon du livre de Paris qui ferme parce qu'encore là, on a peur des gens qui viennent de plusieurs pays. Des écoles dans le Piémont qui ferment au moins jusqu'à la peut-être 8-9 mars parce qu'on est inquiet. L'idée de se tenir loin de lieux publics comme stades, places publiques, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne approche?
Ben, disons que ça fait partie d'un plan. Au Québec, on a un plan similaire, mais comme je disais tantôt, au Québec, on n'est pas rendu là, on a un seul cas. Mais je peux comprendre qu'en Europe, s'il y a une transmission dans la communauté, s'il y a une transmission de personne à personne, on peut vouloir mettre en place des mesures pour empêcher la transmission. Puis c'est des règles d'hygiène de base qu'on devrait appliquer même en temps de grippe. Hein? Par exemple, on est encore en pleine saison grippale. Donc, ce sont deux maladies, la grippe et le coronavirus, qui se transmettent par gouttelettes. Donc, c'est pour ça qu'on recommande aux gens, par exemple, de se laver les mains. En sortant du métro, lavez-vous les mains. Essayez d'éviter de vous toucher le visage. Si vous voyez quelqu'un qui tousse ou qui semble être malade ou qui a de la fièvre, bien, gardez une distance de 2 mètres de cette personne-là. On le ferait en temps normal quand c'est la grippe. On pourrait le faire en même temps pour le coronavirus si on est en Europe. Mais pour l'instant, il n'y a pas de transmission locale à Montréal. On a un seul cas. Les contacts étroits de ce cas-là ont été identifiés. On les surveille. Donc, pour l'instant, c'est des règles d'hygiène de base. En entrant ici ce matin, je me suis lavé les mains avec un rince-main d'alcool que vous avez à la porte d'entrée, par exemple.
Ce qu'on devrait faire systématiquement.
Oui, et moi, je suis venu ici ce matin en métro.
OK. L'autre question, et ça découle d'une lettre ouverte que j'ai lue ce matin de médecins qui travaillent en clinique et qui sont un peu inquiets. Ils ont comme l'impression de peut-être pas avoir l'info, d'être équipés, là, je vais prendre cette image-là, là, pour traiter des patients qui pourraient afficher des symptômes.
Oui, je comprends. Une partie de la réponse de votre question va venir de Québec, Mais nous, à Montréal, ce qu'on a suggéré aux cliniques par des communiqués qu'on a faits avec les cliniques et les hôpitaux, c'était que les médecins, d'abord, doivent faire un triage à l'entrée de la clinique ou de l'hôpital, poser deux types de questions. Le premier, c'est « Est-ce que vous revenez d'un voyage ?» et surtout d'un voyage d'une des régions à risque, comme la Chine, l'Iran, maintenant on a ajouté l'Italie, la Corée du Sud. Donc, si vous revenez d'un de ces voyages-là, est-ce que aussi vous avez des symptômes qui ressemblent au coronavirus? Donc, est-ce que vous avez un petit peu de fièvre? Est-ce qu'ils font un petit peu de fièvre? Est-ce qu'ils ont un mal de gorge? Est-ce qu'ils ont un essoufflement? Oui. Alors, le médecin peut poser ces questions-là. Il y a un triage à l'entrée. On peut isoler le patient dans une pièce à part des autres patients dans la salle d'attente. À l'hôpital, c'est une autre pièce. Et puis ensuite, le médecin peut poser des questions. S'il juge que ça correspond justement à un patient qu'on veut identifier, un patient qui pourrait correspondre à un cas suspect, si la clinique n'est pas équipée pour faire les tests, ils peuvent envoyer ce patient à l'urgence d'un hôpital qui est équipé pour faire ce test-là. Alors donc, les hôpitaux seront prêts à recevoir ces patients-là. Puis bon, voilà, c'est ce qu'on recommande, nous, à Montréal. C'est ce qu'on a recommandé jusqu'à date.
À quel moment on va savoir que la situation est sous contrôle? C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, est-ce qu'on est au mois de mars? Est-ce que ce genre d'épisode, ça dure 6 mois? Ça peut durer 1 an? Ça se dessine comment?
Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse pour vous, malheureusement. On voit que la situation évolue. Ça évolue d'une façon parfois surprenante. C'est sûr que c'est un virus qui vient de commencer. On a vu que ça a pris presque 2 mois à la Chine de commencer à contenir ce virus-là. Je peux imaginer que ça va durer encore quelques mois, mais je ne sais pas. C'est dur à dire. Nous, ce qu'on continue de faire, je répète mon message, mais c'est que pour l'instant, au Québec, on est dans une situation de vouloir contenir cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a un seul cas. On veut limiter le nombre de nouveaux cas. On veut, en tout cas, les identifier. Puis ensuite, de gérer tous les contacts étroits. Parce que ça nous donne du temps. Ça donne du temps au réseau de mieux se préparer. Ça donne du temps à ce que cette saison grippale se termine. Ça va donner le temps, donc, aux hôpitaux de recevoir d'autres cas s'il y en a dans l'avenir. Nul ne sait ce qui va se passer, mais on se prépare davantage. On a un plan.
Bon, il y a plein de gens qui vous écoutent, là, qui ont des plans de vacances.
Oui.
Et qui se disent, l'été prochain, j'ai déjà prévu d'aller, je ne sais pas, à Londres, j'ai déjà prévu d'aller au Portugal, j'ai déjà prévu d'aller en Italie. J'ai une croisière dans les pays nordiques.
Ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait?
Ouais.
Bien, la première chose que je vous suggère de faire, c'est d'aller voir les recommandations de l'Agence de santé publique du Canada, qui recommande des endroits à éviter. Alors, pour l'instant, à moins que ce soit absolument nécessaire, on recommande d'éviter la Chine, l'Iran et puis l'Italie.
Mais en partie l'Italie, je crois, le nord de l'Italie,
oui,
principalement.
Oui, surtout le nord de l'Italie, ouais. Où se trouvent justement les villages où on a trouvé beaucoup de transmission dans la communauté, donc de transmission de personne à personne. Et puis, bon, la Corée du Sud, je ferai aussi un peu attention. Mais pour l'instant, ce sont les endroits les plus à risque. Le reste, il va falloir suivre la situation au jour le jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois. Si vos vacances sont dans 2-3 mois, il va falloir suivre la situation. Puis, comme j'ai dit, c'est une maladie qui se transmet par gouttelettes. Donc, prenez des précautions de base. Lavez-vous les mains régulièrement. À Montréal, il n'y a rien qui se passe, mais prenez le temps de vous pratiquer de ne pas vous toucher le visage quand vous êtes dans le métro. Puis ensuite, lavez-vous bien les mains. Évitez les personnes qui toussent beaucoup. Et c'est les mêmes recommandations qu'on donne quand on est en pleine gestion de pandémie de grippe. Donc, c'est la même chose pour le coronavirus. Alors donc, il faut planifier son voyage selon les données de l'heure. Puis pour l'instant, les données de l'heure, vous pouvez les trouver à l'Agence de santé publique du Canada.
Dernière question. Est-ce que quand on voit l'impact, là, puis je ne parle pas juste de l'impact sur la santé des gens, mais l'impact économique, on a vu les marchés boursiers et tout ça, il ne va pas falloir, je dirais, avoir des critères plus sévères en Chine sur la proximité des humains, des animaux, les développements, parce que ça vient toujours de la Chine, finalement. Le virus de départ, il prend naissance en Chine.
Bien, je comprends le sens de votre question. Ça vient souvent de ces régions où les humains sont proches des animaux, et c'est le cas en Chine. Mais il faut se souvenir que notre pandémie de 2009 de la grippe H1N1 venait du Mexique, justement parce que ça venait d'usines de porc qui se trouvent autour de Mexico City. C'est pas nécessairement de la Chine seulement, c'est vraiment l'interaction entre les humains
et les animaux.
C'est sûr que les humains commencent à prendre de plus en plus de place sur cette planète. Il y a un réchauffement climatique qui s'en vient, on est dedans présentement. C'est sûr que ça bouleverse les écosystèmes. Alors, c'est pas surprenant qu'on fait face à de nouvelles
explosions. Mais là, entre les lignes, vous me dites, dans le fond, là, préparez-vous parce que dans 2 ans, il va y en avoir un autre, puis dans 3 ans, puis ça s'arrêtera pas, là.
Ah, je n'ai pas dit ça, mais ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que c'est pas surprenant.
Les conditions sont réunies pour que...
Oui, il y a beaucoup de monde en Chine, il y a beaucoup de monde partout dans certaines régions du monde. Ce n'est pas surprenant. Je pense qu'il faut se préparer comme société, comme groupe d'humains à faire face à des situations comme ça.
Merci beaucoup, Dr. Le Guerrier, d'être venu.
Ça fait plaisir.
Dr. Paul Le Guerrier, qui est médecin, section prévention et contrôle des maladies infectieuses à la Direction de la santé publique de Montréal, 9h40, pause et on revient après pour la suite.